Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal, je suis Moussa Opondé.
André Mbata, élu premier vice-président de l'Assemblée nationale hier mercredi, candidat unique à cette élection, ses députés de l'UDPS succèdent à Jean-Marc Kabound qui a démissionné le 31 mars dernier. La communauté Lori regroupant le peuple Lendu appelle toutes les factions de la milice Codeco à participer au processus des négociations de Nairobi. Celles-ci disent attendre la notification officielle du gouvernement congolais avant de se rendre dans la capitale kényane. Notre invité, c'est Vincent Mwepu. Il est directeur général de l'Association des sociétés d'assurance et des réassurances du Congo et DG de la société Activa Assurance. Bonjour à tous. Sachez tout d'abord que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé hier soir à Lubumbashi. Il a été accueilli par le premier ministre Jean-Michel Samalukonde, qui a foulé le sol louchois quelques heures auparavant, accompagné de quelques ministres membres de son gouvernement et plusieurs autres personnalités, dont les autorités politico-administratives des provinces concernées par la table ronde sur la cohabitation pacifique. D'après nos sources, Félix-Antoine Tshisekedi recevra les membres des communautés kassaïennes et katangaises ainsi que les membres de la société civile avant de clôturer la conférence interprovinciale entre les provinces de l'espace Grand Katanga et celle de l'espace Grand Kassaï. Élections et installation hier mercredi du premier vice-président de l'Assemblée nationale, le constitutionnaliste André Mbata, candidat unique à cette élection, succède à Jean-Marc Kabound. Dans son discours de campagne devant les députés, cet élu, membre de l'UDPS, a promis de ne ménager aucun effort pour que la RDC puisse avoir des lois justes et rigoureuses examinées dans des délais raisonnables. Mais qui est André Mbata? Son portrait avec vous, Michel Kifinda.
Jusqu'à son élection au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata Mangou a occupé les fonctions du président de la commission politique administrative et juridique à la Chambre basse. Élu député national depuis 2019, André Mbata a été désigné député entre 2004 et 2006 lors du Parlement des transitions, mais aussi élu entre 2006 et 2011 au sein de l'Assemblée nationale de la première législature. Avant de s'engager dans la vie politique, André Mbata a été de 1991 à 1997, juge au tribunal de paix de Kinshasa et de 1987 à 1991, inspecteur de l'Agence nationale d'immigration. Professeur ordinaire depuis 2013, le constitutionnaliste enseigne les droits publics dans plusieurs universités, dont celle de Kinshasa, d'Afrique du Sud, de Paris 3 en France et d'Addis Abeba en Éthiopie. Licencié en droit à l'université de Kinshasa en 1986, André Mbata a soutenu sa thèse à l'Université d'Afrique du Sud en 2002. Et c'est avec cette riche expérience de parlementaire et de constitutionnaliste qu'André Mbata va désormais s'occuper des questions législatives à l'Assemblée nationale.
Au Kassai Oriental, la coordination provinciale de la nouvelle société civile invite les différents candidats à l'élection de gouverneur et vice-gouverneur à un sens élevé de responsabilité qui consiste notamment à s'abstenir de faire un débat sur des personnes, mais bien plutôt sur des idées constructives. Dans une conférence de presse tenue mardi, la coordonnatrice provinciale de la nouvelle société civile a appelé les députés provinciaux ainsi que les candidats gouverneurs à éviter surtout la pratique de corruption sous toutes ses formes. Elle rappelle à cet effet à la mémoire des uns et des autres les dégâts matériels et d'énormes préjudices politiques causés à certains députés provinciaux après les élections de gouverneurs et celles des sénateurs de 2018 dans la province. Rachel Kapinga, coordonnatrice provinciale de la nouvelle société civile du Kassai Oriental, s'exprime au micro d'Esther Dalafina.
Nous invitons les uns les autres à éviter surtout la pratique des corruptions sous toutes ses formes, car elle peut être génératrice de conséquences ou de résultats non profitables à la province. Évitons ensemble de manipuler et d'instrumentaliser la population dans un esprit destructeur. Chaque parti devra jouer sa partition en toute responsabilité. C'est-à-dire que les députés qui ont en ce moment les destins de la province entre leurs mains ont les noble devoir de nous donner en toute indépendance un gouverneur compétent et actif aux besoins de cette population en détresse qui attend impatiemment de voir un nouveau leadership éclairé et clairvoyant prendre à bras les corps son destin vers des horizons meilleurs dans le peu de temps qui nous reste pour la fin de cette législature. Nous exhortons la population à garder le calme et à y privilégier la paix à travers la province pendant ces moments charnières de notre histoire commune.
En Ituri, la communauté Lori, qui regroupe le peuple Lendu, appelle toutes les factions de la milice Codeco à participer au processus des négociations amorcées par le gouvernement congolais à Nairobi au Kenya. C'est pour, dit-elle, s'inscrire dans la dynamique actuelle de recherche des voies et moyens en vue du retour d'une paix durable dans cette province meurtrie par l'activisme des groupes armés. Mais pour la coordination provinciale de la société civile Force Vive de l'Ituri, cet appel à la Codeco n'est garanti pas encore le retour de la paix au regard de l'accentuation des violences dans les territoires de Djougou. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
Pour la communauté Lori qui regroupe le peuple Lendu, cet appel de la Codeco vise à appuyer la démarche du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour restaurer la paix à l'est du pays, principalement en Ituri, déchiré depuis plusieurs années par les conflits armés. Selon Jean-Marie Ndjaza, vice-président de cette structure communautaire, il est grand temps que la Codeco saisisse cette opportunité pour présenter ses revendications aux autorités afin d'espérer trouver des solutions à ces conflits meurtriers qui déchirent la province de l'Ituri avec de graves conséquences sur la population. Jean-Marie Ndjaza.
Nous appelons la Codeco à s'approprier et à participer activement, à poser leurs problèmes, parce qu'ils parlent souvent des cahiers de charges.
Pour sa part, la coordination provinciale de la société civile Force Vive de l'Ituri, qui appuie également cette démarche, se veut prudente. Pour cette structure citoyenne, participer à ces consultations de Nairobi pour les miliciens de la Codeco ne garantit pas pour autant le retour de la paix en Ituri. Son président, Dieudonné Lossa.
Il faut qu'ils aillent là-bas, il faut qu'ils adhèrent à ce qui se fait là-bas. Seulement le fait de les inviter à Nairobi, ça ne suffit pas.
Signalons que la Codeco dit attendre une notification officielle du gouvernement congolais avant de se rendre à Nairobi. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
À Beni, l'armée annonce une série de mesures pour faire face à la criminalité urbaine. Il s'agit notamment d'interdire la vente des tenues similaires à celles des FARDC et d'organiser des patrouilles mixtes avec la police pour traquer les militaires indélicats. Ces mesures font suite à la réaction la semaine dernière de la coordination urbaine de la société civile de Beni qui alerte sur la montée de la criminalité depuis un mois dans la ville. Au moins 8 cas d'assassinats et de blessés par balles ont été enregistrés durant cette période, selon la société civile. Ici, le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1, revient sur les détails de ces mesures au micro d'André Kitenge.
Nous allons prendre des mesures pour interdire la vente des habits tache-tache, communément appelés pentagones. Ces habits-là font aussi confusion et aussi renforcer le contrôle au niveau des frontières pour que de tels habits n'entrent pas dans notre milieu. Parce que ce sont des habits-là qui font que l'ennemi se dissimule ou bien laisse une mauvaise image sur les forces de l'ordre. Ça, c'est de un. De deux, nous allons commencer à faire des patrouilles avec les polices militaires. Dès qu'on trouve un soldat aux aides de service mais qui est en train de déambuler sur la ville, on va mettre la main sur lui parce que chaque soldat qui est en mission est muni d'un bulletin de service montrant qu'il est en pleine mission et qu'il est autorisé de faire des patrouilles ou bien d'être sur un point donné. Donc, ce sont des mesures internes que nous avons prises. Il y en a autant, mais nous ne pouvons pas tout révéler devant la presse. Mais ce que je vous dis, il y a des mesures pour que de tels cas ne se reproduisent plus.
À Fizi, au sud Kivu, une recrudescence de l'insécurité est observée sur l'axe Malindé-Mukini-Baraka. D'après des sources de la société civile à Baraka, environ 25 cas d'enlèvement et incidents connexes ont été enregistrés sur cet axe routier depuis bientôt une année. Et c'est en raison de la présence des combattants présumés Bilosé et Bichambouké dans la zone, souligne la même source. Le dernier cas en date, une personne a été tuée par balle et 5 autres enlevés la nuit de lundi à mardi lors d'une embuscade armée près du village d'Echibé. Fistongoma nous en parle.
Des sources locales affirment que l'incident s'est produit vers 21h. Des hommes armés non identifiés ont tendu une embuscade à 5 conducteurs de moto avec leurs clients dans le village de Chibé, situé à 16 km au sud de la ville de Baraka. Les victimes s'est déplacées en provenance de Mississi lorsqu'elles sont tombées dans l'embuscade. L'un des motards qui a tenté de fuir a été immédiatement abattu par les assaillants. Ces derniers ont pillé tous les objets de valeur de passagers et se sont enfuis inaperçus. D'autres sources indiquent que le même groupe de criminels a enlevé 5 civils à bord d'un véhicule privé. Informé sur cette situation, le commandant du 2202e régiment de FRDC, le colonel David Ipanga, confirme avoir dépêché une patrouille de combat dans la zone touchée. Cependant, aucun autre détail n'a été fourni. Par ailleurs, dans la même nuit de lundi à mardi, un groupe de 7 combattants présumés de Mai Mai à Kutumba a fait une intrusion dans 3 maisons locales à Mississi Centre vers 23h. Les assaillants ont blessé à la machette 3 personnes, dont 2 femmes, après avoir pillé de l'argent, des téléphones portables et d'autres objets de valeur à la maison. La patrouille mixte FRDC-PNC a réussi à capturer l'un des auteurs avec son arme. Le coupable est détenu par le FRDC pour une procédure judiciaire. D'Ouvira Fiston, Mamayabala, Radio Kapi.
5 jours depuis que la 14e épidémie d'Ebola a été officiellement déclarée à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. À ce jour, il y a 2 décès et 3 cas d'alerte. Le centre de traitement d'Ebola a été rouvert à côté de l'hôpital général de référence de Ouangata. Entre-temps, la vaccination a débuté mardi à Mbandaka par les experts de l'OMS. Notre correspondant sur place à Mbandaka revient sur le dispositif mis en place en vue de faire face à cette nouvelle résurgence de la maladie à virus Ebola. Et dans la ville de Paul-Richard Malengela.
Depuis la déclaration de cette épidémie d'Ebola le 23 avril dernier, une équipe de riposte s'est constituée autour de la division provinciale de la santé sous l'égide du ministère national de tutelle. Elle comprend entre autres l'OMS et l'UNICEF, deux agences onusiennes qui apportent l'appui technique et matériel à la lutte, mais aussi d'autres partenaires dont la Croix-Rouge, MSF Belgique et Oxfam. Par ailleurs, il est attendu en Mbandaka l'arrivée de l'incident manager, lequel sera désigné par le gouvernement congolais pour gérer la riposte contre l'actuelle épidémie, ainsi que l'arrivée d'un coordonnateur humanitaire d'Ocha. Entre-temps, la coordination épidémiologique locale fonctionne avec l'approche zonale grâce aux ressources locales. À cet effet, l'OMS, avec ses 2 experts venus de Kinshasa, a disposé 200 doses de vaccins contre Ebola sur les 1600 prévus. Déjà, 3 sites sont opérationnels depuis mardi, d'abord à la division provinciale de la santé, destinée aux professionnels de santé les plus exposés. 2 autres sites sont installés au sein de la communauté, où les 154 contacts peuvent être orientés pour leur vaccination. Mbandaka, prochain Malengue, la radio Okapi.
Direction Matadi, dans le Congo central, où un dépotoir d'immondices est créé à quelques mètres de la rive droite du pont Maréchal. Les odeurs nauséabondes s'y dégagent et asphyxient les touristes qui visitent cet ouvrage tous les jours. À en croire les habitants du quartier situé dans les encablures du pont Maréchal, ni le maire de la ville de Matadi, moins encore les responsables de l'organisation pour l'équipement des bananes à Kinshasa, gérant de cette passerelle, ne réagissent face à cette situation. Tenant compte de sa portée nationale, les notables de ces quartiers appellent à l'implication des autorités tant nationales que provinciales pour l'assainissement des alentours du pont Maréchal, car faisant partie des joyaux dont dispose la RDC. Nana Purichmambou nous en dit plus.
Cet endroit transformé en décharge publique se trouve devant une bâtisse en chantier appartenant à l'Organisation pour l'équipement des bananes à Kinshasa, en abrégé OEBK, institution qui gère les ponts Maréchal. Il est juste à moins de 50 mètres de la tête de cette majestueuse passerelle. Ces immondices, principalement constituées de feuilles sèches utilisées comme emballage de maboké, sont jetées par les tenanciers des bistrots et terrasses se trouvant à proximité du pont Maréchal. Pire encore, c'est l'OEBK elle-même qui fait louer tous ces bistrots. Dans cet endroit, les passants et ceux qui se rendent visiter les ponts retiennent leur esprit. Car les soupes et les ossements des poissons contenus dans les emballages de maboké qu'on y déverse dégagent les odeurs nauséabondes insupportables. Cette insalubrité a aussi attiré plusieurs malades mentaux sur ce lieu touristique. Ils y traînent à longueur des journées, urinent et défèquent ça et là à l'air libre. Pour les maires de Matadi, il revient de la responsabilité de l'OEBK d'assainir son environnement. Patine Zouzi.
L'OEBK gère ses alentours. L'OEBK est un service public. La mairie ne peut pas s'ingérer dans les affaires de l'OEBK. À moins que l'OEBK puisse demander cours au service d'assainissement de la ville de Matadi pour lui aider à assainir sa maison.
Notons que par le passé, suite à l'inaction des responsables de l'OEBK, un des notables de ces quartiers avait utilisé ses propres moyens pour évacuer ses déchets. Matadi, Nana Pluriche Mambou, Radio Okapi.
Actualité internationale. La guerre en Ukraine trouve une résonance particulière en Éthiopie où perdure, à l'écart des radars médiatiques, un conflit sanglant entre le gouvernement et les rebelles du Tigré. Alors que le pouvoir apporte un discret soutien à Moscou, les Tigréens poussent la comparaison avec Kiev, espérant fédérer le soutien de la communauté internationale. Touchée par une flambée épidémique de Covid-19, Pékin risque elle aussi d'être confinée sur le modèle de Shanghai, où la quasi-totalité de 25 millions d'habitants sont interdits de sortie depuis début avril. Plus de 50 décès ont été recensés lundi, selon le ministère de la Santé, un record dans la capitale chinoise.
L'invité.
Vous nous avez suivis dans une série de reportages concernant le secteur des assurances en RDC. Une dizaine de sociétés sont actives au pays et offrent une gamme assez variée des produits d'assurance. Elles sont plus concentrées à Kinshasa et quelques grandes villes du pays. Pour terminer cette série, nous vous proposons cette interview que le directeur de l'Association des sociétés d'assurance et de réassurance du Congo nous a accordé, Vincent Mouipou, et en même temps le DG de la société Active Assurance. Il s'entretient avec Daniel Tambinzoni.
Vincent Mouipou, bonjour.
Bonjour.
Brièvement, présentez-nous votre entreprise, présentez-nous Active Assurance RDC.
Le groupe Activa, nous sommes présents sur 9 pays à travers 12 sociétés. On a des sociétés vie et des sociétés non-vie. Nous sommes une société qui a été créée, donc je disais depuis 24 ans, par des investisseurs africains qui voulaient créer une compagnie d'assurance qui allait travailler sur des standards internationaux, mais qui serait vraiment concentrée sur l'Afrique. Et on est présent en RDC depuis 2019. Et en 2019, on avait uniquement l'agrément pour la partie non-vie. Et maintenant, depuis 2021, on fait aussi la partie vie.
Puisque vous avez insisté là-dessus, ça veut dire quoi? Assurance vie et l'assurance non-vie, c'est quoi la différence entre les deux?
L'assurance non-vie est aussi appelée l'assurance IARD, incendie, accident et risque divers. C'est plus les assurances qui sont basées sur les responsabilités, sur les biens, quand je dis bien, donc les voitures, les immeubles, etc. Et l'assurance vie, c'est une assurance qui est plus tournée vers la personne. Si on a des assurances décès, on a des assurances retraite, des assurances qui ont des capitales décès invalidité et d'autres produits qui se promettent de se projeter sur l'avenir, donc soit pour un projet, soit après notre travail habituel, quand on va prendre notre retraite pour qu'on ait un fonds pour pouvoir maintenant s'orienter vers d'autres activités.
Quel est l'avantage que l'État a à organiser le secteur des assurances? Est-ce que c'est un secteur aussi important pour l'économie dans un État?
Le secteur des assurances, si je prends le cas de la RDC, si vous dites que l'État a intérêt à réguler le secteur, je dirais oui, parce que déjà c'est un secteur qui est de libéralisation très jeune. Donc ça veut dire depuis 2019, c'est vraiment la date de la libéralisation. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment, quand c'est jeune, mieux va prendre les bons réflexes et bien organiser quand c'est encore jeune, au lieu de faire ça après de longues années. Après maintenant, les chiffres que le régulateur nous a présentés, on parle d'un marché qui actuellement, dans les conditions dans lesquelles nous fonctionnons, s'il est régulé de manière optimale, on est à peu près à 800 millions de dollars de primes. Et dans 3 à 5 ans, on peut passer à 3 milliards. Et si je vous dis qu'en 2021, on était à peu près un peu plus de 200 millions de primes, donc vous voyez quel est le gap qu'il y a. Donc ça veut dire que l'État a tout intérêt à bien le réguler parce que plus on a de primes, plus on paye d'impôts. Et puis l'État a plus d'argent d'un côté. Plus on paye de primes, plus on a des capitaux qui sont disponibles justement pour investir peut-être soit dans des projets ou soit déposer dans des banques et les banques pourront donner plus de crédit aussi à leurs clients.
Quel serait votre commentaire lorsque l'IGF et l'ARCA veulent embrayer sur l'article 286 du Code des assurances qui interdit que les entreprises ou des personnes physiques souscrivent leur police d'assurance à l'étranger pour des risques qui sont installés au Congo ou auprès des entreprises qui ne sont pas agréées par l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA?
Je pense que la loi s'impose à tous, hein. Donc on a des assurances qui est claires avec l'article que vous venez de citer. Et je dirais que c'est pas plutôt les compagnies d'assurance, c'est les opérateurs qui s'assurent directement à l'étranger. Et tout à l'heure, je vous parlais des chiffres. Je vous disais que 2021, le secteur des assurances a terminé à peu près aux alentours, je crois, de 220 millions de dollars de primes. On vous dit que le secteur actuellement est à peu près 800 millions de dollars de primes normalement qui devraient sortir actuellement. Donc la différence entre les deux est sûrement quelque part. Donc je suppose que l'IGF et l'ARCA, quand ils prennent ces décisions et ils font ces communications, c'est qu'ils ont plus d'informations que moi et ils savent où sont les primes et sûrement qu'ils ont déjà identifié des opérateurs qui sont dans des cas qui ne ne sont pas permis par la loi.
Quel est l'avantage qu'un assuré a et que le non-assuré n'a pas?
Je dirais que nous sommes non seulement tous des humains, nous sommes exposés à des risques en permanence hein, dans la vie. Vous achetez une maison, elle peut brûler. Vous achetez une voiture, elle peut faire un accident. Vous allez en voyage, vous pouvez tomber malade. Et beaucoup d'autres situations qui peuvent arriver dans la vie. L'assurance est là pour couvrir des risques. On sait que le risque zéro n'existe jamais. Mais quand vous avez un événement, un sinistre qui vous arrive, l'assurance vraiment vous aide à revenir à l'état dans lequel vous étiez avant le sinistre. Que ce soit au niveau de la maison, on va financer des réparations. Au niveau du véhicule, on peut financer des véhicules. Et parfois, en achetant un nouveau aussi, vous avez une tour risque, etc., etc. Donc, ça veut dire que vous voyez de vous-même un assuré et un non-assuré. Le non-assuré qui a un problème, il peut tout perdre. Mais l'assuré qui a un problème, au moins l'assurance lui permet de revenir à l'état initial pour pouvoir continuer sa vie tranquillement.
Vincent Mopo, merci.
Ainsi s'achève ce journal coordonné par Alain Irung et mis en onde par Polydor Basunga. Merci de l'avoir suivi.